Oui, bonjour. Bienvenue à Psycho Balado avec Yves Dalpé, psychologue. Alors, je poursuis la lecture de mon livre coécrit avec Joanne Côté, qui s'intitule La gentillesse dans le couple, et le titre de l'épisode actuel, donc, porte. Et celui-ci, gentillesse plutôt qu'un médicament. Alors, donc, nous sommes le 19 mai 2023 et j'enfile avec la lecture. Avec ces médicaments, la médecine s'est emparée du traitement des dysfonctions sexuelles. La vision sous-jacente à cette approche fait bien l'affaire. On sépare les problèmes sexuels du tableau clinique psychopathologique pour les réduire à une conception biologique et mécanique. Ainsi, le client malheureux de sa vie sexuelle évite la honte. Il n'est pas responsable de ses ratés sexuels puisque ceux-ci relèvent exclusivement de problèmes médicaux, croit-on. Ouvrez les guillemets, si je n'ai plus d'érection, c'est parce que j'ai un problème physique et non pas parce que je suis déprimé de ma relation conjugale désespérante, fermer les guillemets, peut raisonner un homme, par exemple. Mais il faut savoir que la médicalisation des problèmes sexuels est remise en question depuis une vingtaine d'années. Selon Brotteau et Luria, en 2014, la médicalisation des difficultés sexuelles est perpétuée par le manuel diagnostique de la psychiatrie américaine et aussi par l'intérêt des compagnies pharmaceutiques. Ainsi, l'utilisation de testostérone exogène sous forme de médicaments pour traiter le faible désir sexuel des femmes fait l'objet d'une controverse. Pourtant, on estime que plus de 4 millions de prescriptions de testostérone sous le comptoir sont faites chaque année aux États-Unis seulement. On s'inquiète donc des hauts taux d'effets indésirables comme la masculinisation des consommatrices, 30% selon l'échantillon d'une recherche, ainsi que des cas de cancer du sein attribuables à ces prescriptions de testostérone. On s'est excité particulièrement avec un gel tropical contenant de la testostérone, qu'on appelle l'ibigel, mais l'effet placebo était plus efficace, point d'exclamation. Or, depuis une dizaine d'années, un nouveau cadre de référence a émergé en réaction à cette médicalisation qui souligne l'importance des facteurs sociaux pour expliquer le manque de désir des femmes. Pour les soulager de leur détresse, on préconise d'autres avenues que celles axées sur les facteurs hormonaux biologiques. Du côté masculin, c'est l'arrivée du Viagra en 1999 et ses équivalents, à savoir Levitra et Cialis, qui ont pris le relais de la sexothérapie pour traiter la dysfonction sexuelle. Plus de 100 millions d'hommes en ont consommé dans le monde. Voyons, j'ai mal lu ma phrase. Plus de 100 millions d'hommes en ont consommé dans le monde. La facilité d'utilisation procurée par la pilule est un avantage majeur, surtout pour les médecins qui ont peu de formation ou peu d'intérêt dans la gestion des dysfonctions sexuelles. Est-ce efficace? Beaucoup de nuances s'imposent. Le Viagra et ses deux autres médicaments ne doivent pas être perçus comme une panacée pour atteindre le bonheur sexuel. Premièrement, ces trois médicaments restaurent l'érection chez environ 75% des utilisateurs et non 100%. En plus, ces remèdes perdent de leur efficacité avec le temps. Selon certaines études, le Viagra et Levitra produirait des érections plus fermes et plus satisfaisantes alors que l'effet du cialis durerait plus longtemps. Mais il faut savoir aussi qu'une proportion substantielle d'hommes cesse ces traitements. Dans une recherche sur 25 000 hommes effectuée dans 8 pays seulement, seulement 16 % des hommes adhéraient à leur prescription après une certaine période. Plusieurs raisons expliqueraient cet abandon du médicament. Dans certains cas, le médecin n'a pas donné suffisamment d'informations. Dans d'autres cas, c'est la peur des effets secondaires qui a fait abandonner l'usage de ce genre de médication. Mais on retrouve aussi les préoccupations des conjointes réticentes. De plus, des couples sont carrément déçus du manque de changement dans la qualité de leur relation sexuelle avec la prise de ces médicaments. Des auteurs ont déjà théorisé que le succès du Viagra, de Levitra et du Cialis était probablement plus bas chez certains couples, à savoir ceux qui vivaient des conflits chroniques, ceux qui vivaient un manque de désir et ceux qui souffraient de pathologies psychiatriques. Malheureusement, pour contrecarrer cela, les compagnies pharmaceutiques excluent ces gens-là de leurs recherches et donc on ne sait pas quelle est l'efficacité de ces médicaments sur ces patients. Par ailleurs, on sait depuis longtemps que les difficultés interpersonnelles et conjugales jouent un rôle majeur dans plusieurs cas de dysfonction érectile, sinon la plupart. Aussi, que chez les couples qui procèdent toujours par pénétration et qui n'en démordent pas, l'incapacité à obtenir une érection ferme et durable amène souvent la cessation complète de toute activité sexuelle, ce qui est déplorable. Et parfois, une dépression, l'anxiété généralisée, le désordre obsessionnel compulsif, le stress post-traumatique et l'abus d'alcool ou de drogue peuvent être tellement sévères qu'elles contribuent à la dysfonction érectile et qu'elles nuisent considérablement au traitement. Il va de soi qu'on doit donc commencer par traiter ces problèmes avant de s'attaquer à la dysfonction érectile. De toute façon, étant donné l'importance des causes psychologiques impliquées dans l'existence de la dysfonction érectile, les guides actuels de gestion de ce malaise recommande la thérapie sexuelle ou conjugale comme première modalité de traitement. Mais en réalité, c'est plutôt l'approche médicamenteuse qui est beaucoup plus utilisée, malheureusement. Binnick et Hall, en 2014, sont pourtant catégoriques. Malgré les progrès remarquables dans la compréhension des mécanismes biologiques de la dysfonction érectile, la thérapie sexuelle est nécessaire. D'ailleurs, la vie sexuelle n'est pas réduite à la pénétration. Le plaisir sexuel ne nécessite pas la pénétration, bien au contraire. Saviez-vous que jusqu'à 30 % des hommes affectés d'une dysfonction érectile ont aussi de la difficulté à retenir leur éjaculation? L'une des explications, c'est que des hommes ayant une dysfonction érectile développent de l'anxiété de performance au sujet de leur érection et se dépêchent à éjaculer durant la pénétration. Cette réaction défensive peut les amener à éjaculer trop vite de façon régulière. En ce qui concerne l'éjaculation prématurée, on fait la même constatation que pour la dysfonction érectile. Les hommes qui en souffrent devraient bénéficier de thérapies sexuelles et conjugales. Mais depuis la moitié des années 1990, le décor a complètement changé concernant le traitement de l'éjaculation prématurée. On administre maintenant des antidépresseurs à ces hommes et cela fonctionne. Ces médicaments ont donc malheureusement remplacé la sexothérapie. En passant, vous vous demandez peut-être ce qui est jugé comme trop rapide. La Société internationale de médecine sexuelle a proposé ces critères. Deux points. Moins de 1 minute de pénétration vaginale, avec en plus des conséquences négatives vécues dans le couple, comme de la détresse, de la frustration, des tracas et l'évitement de l'intimité sexuelle. Le manuel diagnostique de la psychiatrie américaine, ce qu'on appelle le DSM, a accepté cette définition en ajoutant une durée minimale de 6 mois durant lesquels les échecs se produisent 75% du temps. Les 2/3 des hommes ayant cette difficulté en ont souffert toute leur vie. Il se peut que parmi ceux-ci, on trouve un sous-groupe qui a une vulnérabilité biologique comme explication au problème. Mais cette cause biologique ne se retrouverait pas chez les hommes qui sont devenus éjaculateurs précoces après avoir bien fonctionné auparavant. Il faut alors en chercher la cause du côté du stress ou encore du côté d'une maladie. Cela pourrait être l'hyperthyroïdie, des problèmes avec la prostate ou l'effet d'une opération chirurgicale. Certains hommes éjaculent avant même de pénétrer. 5% des hommes qui ont toujours souffert d'éjaculation prématurée tombent dans cette catégorie qui est la forme la plus sévère de l'éjaculation précoce. Mais au contraire, on rencontre des hommes qui éjaculent 5 minutes ou plus après la pénétration et qui s'imaginent à tort d'être affectés par cette dysfonction au point de s'en préoccuper inutilement. Un mot finalement sur l'andropause qui amène des hommes à consommer de la testostérone sous forme de médicaments. Ce concept gagne du terrain. Dans la 4e édition de Principles and Practice of Sex Therapy, publiée en 2007, on affirmait que le concept d'andropause était controversé, tandis que dans la dernière édition, celle de 2014, on la présente comme un fait établi. Agronin, en 2014, rapporte des recherches montrant que le niveau de testostérone baisse de 1 à 2% par année à partir de l'âge mûr, de telle sorte qu'à 70 ans, entre 35 et 70% des hommes souffriraient d'hypogonadisme, c'est-à-dire le niveau de testostérone inférieur à 200. Je ne suis pas familier avec la formule, là. Je m'en excuse. Le syndrome clinique qui s'ensuit comprend plusieurs symptômes comme une libido décrue, de la dépression, de la décroissance de la puissance musculaire et de la densité osseuse, etc. Cependant, Agronin fait remarquer que le déclin de l'activité sexuelle après l'âge de 65 ans, chez la femme comme chez l'homme, n'est pas aussi marqué qu'on pourrait s'imaginer. Après 60 ans, les meilleurs prédicteurs de niveau actif de l'activité sexuelle semble être le niveau antérieur de fréquence sexuelle régulière avant cette période. La santé physique et mentale de la personne et la présence d'un partenaire sexuel intéressé et en bonne santé. On dit que, pour les hommes, c'est la santé physique qui compte le plus pour déterminer la longévité sexuelle, tandis que pour les femmes, c'est la qualité de la relation amoureuse. Précisons qu'en ce qui concerne l'apport de testostérone exogène sous forme de médicaments administrés aux hommes, celui-ci n'aura d'effet sur la hausse du désir sexuel que si le niveau de testostérone est insuffisant. Avec des niveaux normaux, l'administration de testostérone n'a aucun effet sur le désir. Alors voilà pour ce chapitre sur les médicaments. Je vais enfiler, étant donné qu'il reste encore du temps, avec le chapitre suivant qui s'intitule « La précieuse attraction mutuelle ». L'attraction réciproque est la base de l'amour des amoureux. Les deux membres d'un couple le savent et jouent sur ce tableau. Il existe un petit jeu subtil à ce sujet, d'ailleurs. Avec le temps, chacun sait très bien ce qui attise l'autre et en mesure l'effet avec justesse. Julie, par exemple, perçoit instinctivement le ravissement de son amoureux quand elle est légèrement vêtue. celui-ci devient instantanément de bonne humeur et elle peut obtenir ce qu'elle veut de lui. Et elle arrive au même résultat quand elle revêt plutôt telle sorte de vêtements ou qu'elle se coiffe de telle manière. Elle sait spontanément ce qui plaît à son âme et ce qui le rapproche d'elle. Quelle mimique le charme et quel mouvement corporel l'excite. L'inverse est vrai. Elle connaît très bien la recette pour inspirer de l'aversion et de la distance. Même chose pour son conjoint. Ainsi, chacun envoie des messages non-verbaux inconscients à l'autre sur son désir d'être proche ou distant. Certaines personnes en font des luttes de pouvoir. Ouvrez les guillemets, tu vas m'aimer comme ça m'enchante, sans que j'aie à me soucier de toi, fermez les guillemets, qu'elles se disent. Et elles imposent des choix contraires au goût de leur amoureux. Ouvrez les guillemets, tu vas m'aimer avec 20 livres de trop, et tu vas me désirer quand même, fermez les guillemets, qu'elles pensent avec un brin de colère. De son côté, par exemple, Marie-Josée déplore l'allure des vêtements de son amoureux Michel, mais il résiste catégoriquement à ses suggestions. Certaines personnes manquent de sensibilité et n'accordent aucune valeur aux préférences de leur conjoint. L'attraction s'en ressent et il ne reste plus qu'à jouer la victime. L'amour romantique est durable quand les amoureux sont attentifs l'un à l'autre sur ce genre de senti subtil, spontané, involontaire et inconscient. Une corrélation retrouvée dans ma thèse doctorale rejoint l'unanimité actuelle des chercheurs. Deux points. La fréquence des relations sexuelles d'un couple est en relation avec son bonheur conjugal général. Mais ceci ne veut pas dire qu'une plus grande quantité d'activités sexuelles prédisent une plus grande satisfaction conjugale. C'est plutôt une régularité serrée convenant aux deux conjoints qui va de pair avec le bonheur du couple. Ce qui rend cette régularité prévisible, c'est la qualité de la relation. Bien entendu, si l'un des conjoints domine l'autre, la réaction de distance sexuelle est presque assurée. La qualité de la relation globale entre deux amoureux est le fondement de la durée de l'attraction sexuelle. Tout se tient. Un bébé est aimé de la bonne façon et il se développe harmonieusement dans l'affection. Plus tard, il aime sainement son amoureuse et elle le lui rend bien. Les deux conjoints entretiennent une vie sexuelle constante et satisfaisante, digne de la qualité de leur lien romantique. Et ces deux adultes adoptent tellement comptent tellement l'un pour l'autre qu'ils contiennent leurs désirs suscités par d'autres personnes afin de protéger leur trésor. Au contraire, un enfant mal aimé et parfois même abusé hérite d'un trouble de l'attachement et développe des traits de personnalité dysfonctionnels. Plus tard, il ne saura pas aimer adéquatement et cela se transformera en trouble du désir, trouble dans le sens qu'il vivra de l'insatisfaction en matière de fréquence sexuelle dans son couple et aussi dans le sens que ses désirs pourront s'éparpiller, se déposer sur du matériel virtuel ou sur d'autres personnes. Nous proposons que si l'ignorance sexuelle et surtout le puritanisme inhibent sexuellement l'individu, c'est sa faible capacité d'aimer qui est le principal inhibiteur une fois la relation amoureuse bien enclenchée. Probablement que le puritanisme sert de prétexte au raidissement de l'individu sur ses gardes face à l'amour. Autrement dit, l'individu élevé dans le puritanisme par des parents aimants va transcender son puritanisme avec le temps et développer son potentiel sexuel. Tandis que l'individu malmené affectivement dans son enfance va s'accrocher à ses valeurs puritaines plus tard pour marquer sa distance relationnelle dans sa vie conjugale. C'est une réaction typique chez la femme. Au contraire, cet individu malmené peut se révolter et faire le contraire de ce qu'on lui a inculqué en manquant de respect dans l'expression de sa sexualité et en étant hypersexuel. C'est la réaction la plus répandue chez les hommes. Alors, je vais m'arrêter ici et puis je poursuivrai dans 2 semaines et peut-être que je recommencerai le prochain épisode en reprenant le début de ce chapitre que je trouve particulièrement important. Alors donc, chers auditeurs, c'était Psycho Balado avec Yves Dalpé, psychologue. Je vous invite à consulter mon site internet www.dalpecote.com afin de prendre connaissance de mes services et de mes livres. Alors donc, on se donne comme rendez-vous à peu près dans 2 semaines, un vendredi. Au plaisir!